Genèse chapitre 5, donc nous voyons les différentes généalogies. On s'était arrêté sur le cas de Enoch, avec ce témoignage qu'il marchait avec Dieu et il avait été enlevé, Dieu l'avait pris. Et donc on a longuement parlé de cela. Je voudrais que l'on considère un petit peu ce tableau. On voit que du temps de Noé, ben là c'est le déluge qui est arrivé. Et Noé fait partie de la génération qui n'a pas connu Adam. Vous voyez, tous les autres ont connu Adam. Et c'était curieux, hein, les gens vivaient très très longtemps, donc ils pouvaient connaître leur grand-père, leur arrière-grand-père, en fait tous leurs ancêtres. Et c'est que du temps de Noé, où Adam n'était plus là. Et le témoignage de ce patriarche n'était plus là. Et les choses, sans doute... peut-être ont commencé à changer à partir du moment où Adam est mort, je ne sais pas. En tout cas, je voudrais qu'on réfléchisse un petit peu ce matin sur les longues durées de vie. Qu'est-ce que ça vous ferait si aujourd'hui vous viviez pendant des siècles et des siècles comme ça? Qu'est-ce que ça éveille en vous? Est-ce que vous avez des remarques, qu'est-ce que ça vous inspire?
Ça m'inspire que je ne veux pas vivre, même pas 100 ans, même pas 80 ans.
Ouais. On ferait long.
Dans le monde actuel, ça ne donne pas envie.
Ça ne donne pas envie dans le monde actuel, ouais.
Et si je me demande si ces chiffres sont vraiment réels, ou peut-être à l'époque, il comptait, je ne sais pas, autrement, on ne sait pas. Hein. Mettons 950, c'est peut-être 95 ans.
Peut-être.
C'est pas possible, on ne peut pas vivre tout ça, c'est irréel.
C'était réel.
Il y a beaucoup de personnes, on se pose des questions, pourquoi les ancêtres, ils ont vécu plus le temps que nous dans le monde réel maintenant.
Pourquoi? Ouais. Mais on va essayer de voir un petit peu la suite du texte et de voir ce que ce texte nous apprend. Mais avant cela, je voudrais vous faire écouter un extrait du journal télévisé. Si j'ai pas mis les autres, je vais mettre le son assez fort, j'espère que ça va.
Scientifique affirme, sans sourciller, que l'homme qui vivra 1000 ans est peut-être déjà né.
Il y a des recherches sur l'ADN et les nouvelles
technologies. C'est le mois de septembre.
La vie, certains experts, notamment un généticien français, en une seule phrase nous interpelle. Ainsi, il estime que le premier bébé qui vivra 1000 ans est déjà né. Alors, provocation ou fantasme, Éric Bonnet et Pascal Spelletta.
Le bébé qui pousse son premier cri en 1750 n'a que 25 ans d'espérance de vie. En 1910, c'est le double, 49 ans. 1960, on peut espérer vivre 68 ans. La perspective aujourd'hui est de 82 ans. Et la peau va, paraît-il, poursuivre sa course, au point que ce scientifique affirme, sans sourciller, que l'homme qui vivra 1000 ans est peut-être déjà né.
Il est possible que les enfants qui naissent aujourd'hui et qui auront à peine 90 ans au début du prochain siècle bénéficieront d'une technologie tellement extraordinaire qu'ils pourraient déjà atteindre des espérances de vie très longues.
Ces technologies n'existent pas encore, mais les bases sont posées. Comme ces drôles de ciseaux à échelle moléculaire, capables de couper une partie de notre ADN. Le morceau, porteur d'anomalie, peut être ainsi supprimé. L'ADN... préparer, plonger au cœur de nos organes pour les restaurer, cette science-fiction-là devient réalité. Prendre des cellules d'un patient, les mettre en culture, et les réinjecter par exemple sur un cœur abîmé après un infarctus, la médecine sait déjà faire. Alors jusqu'où ira-t-on? Le corps maintenu en vie 200, 300 ans, voire 1000 ans, la science y travaille, mais les humains, eux, en ont-ils envie?
100 ans, déjà ça me paraît déjà une très très longue vie. Là on se dit, ah, il faut qu'on fasse plein de choses avant de mourir justement, et se dire qu'on ne pourra jamais mourir, ça enlève tout, enfin, toute la motivation qu'on a vue.
À l'unanimité, les étudiants interrogés devant cette faculté ne veulent pas vivre plus de 100 ans, et ça ne surprend pas la philosophe.
Vivre bien, c'est comme vivre dans l'éternité. Et je me demande si vivre dans l'éternité, est-ce que ça enlève pas, est-ce que ça ne substitue pas à l'angoisse de mourir, bah, l'ennui de vivre en fait, parce qu'il n'y a plus de but.
Le scientifique y croit, mais il se veut rassurant aussi. La vie humaine va s'allonger progressivement, pour l'instant, au rythme de 3 mois par an.
Voilà.
Oui, parce qu'elle est horrible tout ça.
C'est raisonnement humain, ça.
Mais après, enfin, franchement, j'y crois que franchement, les personnes qui étaient mille ans à cette époque, parce que j'ai eu des cours de génétique, et justement au cours de notre vie, il y a des mutations. Et plus ça va, plus on engendre des mutations, et les mutations elles se transmettent de génération en génération. Ce qui peut aussi montrer que ben, le premier homme a pu vivre mille ans, mais qu'après, il y a tellement de mutations qui provoquent aussi des cancers, et des choses, des maladies dont on n'était pas au courant, qui pouvaient exister et qui faisaient que la durée de vie limitée, qu'à l'heure actuelle, la médecine montre que c'est telle ou telle maladie qui fait que... On
ne
vit pas éternellement
dans
l'heure actuelle.
Et là-bas aussi, il y avait des maladies. Même à l'époque.
L'air était beaucoup plus pur à l'époque. Enfin, je ne veux pas dire, mais les conditions étaient. Moi, j'imagine, sortie du jardin d'Éden, je pense que Dieu n'a pas voulu directement que les humains aussi. À la base, ils étaient prévus pour vivre éternellement avec Dieu.
Ouais.
Et moi, pour moi, c'est pour ça aussi qu'il permettait que les premiers hommes vivent aussi éternellement. Et enfin, je sais que c'est marqué plus loin dans justement ce qu'on
dans le texte qu'on va lire. On va lire tout à l'heure. Alors oui, donc la durée de vie est jusqu'à 120 ans. Alors ils disent notre corps est programmé pour s'arrêter à 120 ans de vivre. Les cellules sont programmées génétiquement pour aller jusqu'à 120 ans. Et donc, en améliorant nos conditions de vie, en améliorant notre alimentation, en ayant des nouveaux médicaments pour pallier aux organes qui défaillent, etc., eh bien, on avance tout doucement. Hein. On dit 3 mois. On gagne 3 mois d'espérance de vie tous les ans, 5 heures tous les jours. Donc, plus le temps passe, plus... la date de notre mort recule en quelque sorte.
Oui, mais dans quel état aussi?
Alors, ça c'est donc ce que faisait allusion le monsieur là qui parlait, qui a été interrogé par le journaliste, à savoir vivre 1000 ans. Ben donc, c'est toutes les interventions après au niveau génétique, pour faire des modifications génétiques, pour faire des super hommes, hein. Il y a toutes sortes de projections, vous pouvez voir ça sur internet, c'est un extrait d'un article du Figaro, il y a déjà 2 ans, de 2011, vous faites vivre 1000 ans, et vous tomberez dessus, si vous voulez des détails, mais l'idée c'est après d'intervenir, d'intervenir dans les gènes de l'homme pour corriger les choses ou rendre plus performants certains, comme on fait avec les plantes en fait, hein. Comme on fait avec les plantes actuellement. Hein. Faire des modifications génétiques dans le sens d'aller plus loin et de faire des palliatifs également avec des organes mécaniques, avec toutes sortes de choses qui feraient que la limite des 120 ans, en faisant de la modification génétique, pourrait être franchie. Avec tous les problèmes éthiques que cela pose, sachant que ces recherches-là sont financées sur des fonds privés, ce ne sont pas les États qui financent, ce sont des fonds privés, où nous avons une planète où les États deviennent de plus en plus faibles parce qu'ils sont très endettés, et des personnes qui deviennent de plus en plus fortunées et qui peuvent se payer à eux tout seuls des études dans leur coin. Et vous en saurez davantage là-dessus, je ne veux pas trop m'étendre là-dessus. Tout ça pour attirer votre attention sur cette question que nous avons vue tout à l'heure, sur la question de vivre 1000 ans. Et on a dans la Bible, en fait, ce cas qui s'est déjà produit, hein. Les choses, l'Ecclésiaste se dit, ben, les choses qu'on vit ne ce sont que des choses qui sont déjà arrivées dans le passé, qui reviennent. Et effectivement, on a à travers ces textes, qu'est-ce qui s'est passé avec ces gens qui vivaient très longtemps. On a vu qu'ils connaissaient tous leurs grands-pères, tous leurs aïeux. On a vu que ces durées de vie sont là, effectivement, comme disait Marie-Pierre, le texte nous dit qu'après ça va être réduit à 120 ans. On va lire le texte maintenant. Et on va essayer de voir finalement qu'est-ce que ça a donné. Qu'est-ce que ça a donné quoi, ces grandes durées de vie? Ça a donné quoi? Alors, on va lire pour ça Genèse chapitre 6. Les 6 premiers versets. Genèse chapitre 6, les 6 premiers versets. Le titre du message aujourd'hui, c'est pas vivre 1000 ans, c'est les deux cœurs. Les deux cœurs. Vous allez comprendre pourquoi. Genèse chapitre 6. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur furent données, les hommes se multiplient, ce qu'on avait vu au chapitre précédent, et il engendra des fils et des filles pour chaque personnage, et il engendra des filles et des fils. Et lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, et il en fut de même après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles lui eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé dans son cœur. Jusque-là ce matin. Alors, un petit peu de vocabulaire, si on regarde de près notre texte. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Alors, la question des fils de Dieu. Qu'est-ce que c'est ces fils de Dieu qui interviennent? On a de nouveaux personnages dans notre texte là qui interviennent, qui ne sont visiblement pas des hommes. On retrouve la mention de ce terme fils de Dieu dans le livre de Job, qui est un livre qui a été écrit peut-être en même temps, même peut-être avant le texte de la Genèse. Et nous lisons ceci dans le prologue du livre de Job. Les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan était au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Satan répondit, de parcourir la terre, de m'y promener. Et l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre, etc. Et on a cette reprise dans le chapitre 2. Les fils de Dieu vient un jour se présenter devant l'Éternel, Satan était au milieu d'eux. Et la plupart donc des commentateurs pensent que ces fameux fils de Dieu dont il est question ici, ce sont en fait des anges. Ici en question, ce doit être certainement des anges déchus. Ensuite, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Ce mot « belle », c'est le mot « bon »,« bien ». qui est utilisé dans les chapitres qui précèdent. Dieu, quand il a fait la création, il a vu que tout cela était très bon, par exemple. C'est le même mot qu'il a dit, maintenant il est comme nous, comme la connaissance du bien et du mal, donc c'est le mot bien. Donc c'est un mot qui est beaucoup plus vaste que la beauté physique. Hein. Il dit que les filles étaient bien. Et ils les prirent pour femmes parmi toutes celles qui choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et que ses jours seront de 120 ans. L'homme n'est que chair. Donc ça c'est le même mot chair qu'on trouve dans Genèse chapitre 2 et 3, lorsqu'il est dit, Adam disait, voici, en parlant de la femme, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, ils se feront une seule chair. Et donc, en quelque sorte, Dieu dit ici, l'homme, il est chair, il est constitué de chair. C'est pas comme les fils de Dieu qui sont davantage des esprits. Et ses jours seront de 120 ans. Ces jours seront de 120 ans. On peut également comprendre, je vais prolonger leurs jours de 120 ans. Donc les deux interprétations sont sans doute valables. Et peut-être cette déclaration a été faite par là, et à ce moment-là, après, Noé a commencé à construire l'arche. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là. Alors, qui sont ces géants? Donc, c'est un mot qu'on trouve très peu. Niphilim, qui vient de tomber, de précipiter. On le retrouve dans il est à nouveau employé quand les enfants d'Israël vont à la découverte du pays promis. Il est habité par des géants à ce moment-là, c'est beaucoup plus tard. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, et il en fut de même après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Alors là, le mot Antiquité, c'est pas la période historique que l'on connaît, nous, quand on parle de l'Antiquité. C'est le mot Éternité, donc c'est quelque chose qui se réfère au moment où on a écrit, à ce qui s'est passé dans le lointain passé. Ensuite, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toute pensée de leur cœur se portait chaque jour uniquement vers le mal. Donc il vit que le mal des hommes était grand, et que leurs pensées se tournaient vers le mal. Tu connaîtras le bien et le mal. Et donc, il s'agit bien de ce même mot, le mal. Et l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Donc ici, on a les deux mentions du mot cœur. Le cœur des hommes qui se tourne vers le mal, le premier cœur, et le cœur de Dieu qui lui est affligé, c'est-à-dire qui souffre, qui est dans la souffrance, qui est atteint, qui est blessé. C'est le sens du mot ici affligé. Et l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Donc il est désolé, c'est l'idée de vouloir tourner la page, veut se repentir d'avoir fait l'homme sur la terre. Donc voilà en ce qui concerne notre texte. Comment comprendre un petit peu cette situation, hein? Alors on a, avec l'intervention de ces fils de Dieu, ça me fait penser, enfin, moi ça me fait penser à ce qui s'est passé avec l'intervention du serpent dans le jardin d'Éden, où Ève avait été séduite par ce serpent, et là Adam n'avait rien fait à ce moment-là, Et là, on est un petit peu dans le même contexte. On voit ces fils de Dieu qui viennent, qui voient que les filles sont belles, sont bien, et ils prennent pour elles des femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Donc, comme s'ils l'avaient fait tout à fait librement, à leur guise, sans que les hommes réagissent à cela. Le fruit de l'union entre les fils de Dieu, donc ils ne sont pas des hommes, et les femmes, donc ça donne ces super-héros. Hein. Donc le texte mentionne également les héros fameux de l'Antiquité. Hein, donc vous savez que la mythologie nous rapporte, donc l'histoire profane à côté, les histoires de la mythologie nous racontent de ces personnes qui étaient des personnes qui avaient des facultés exceptionnelles, qui avaient des facultés extraordinaires, qui vivaient à une certaine époque, hein, toute l'histoire de la mythologie grecque et tous ces dieux et ces demi-dieux et toutes ces histoires qui existent dans différentes civilisations. Donc il y a fait un petit peu mention ici, une petite parenthèse. En tout cas, ce qu'on peut conclure de certains, c'est que le mal a progressé et le mal est devenu intolérable, insupportable à Dieu. Donc, on voit que la longue durée de vie des hommes ne sert pas à la sagesse, mais elle va servir le mal. On pourrait penser que plus un homme vit longtemps, plus il acquiert de sagesse. Et donc cette sagesse va le rendre de plus en plus sage, de plus en plus raisonnable. Lorsque l'on avance dans l'âge, normalement, on acquiert de l'expérience. Donc on sait mieux comment il faut faire les choses, on fait normalement moins de bêtises. Et on pourrait penser, en vivant très longtemps comme ça, ben, on doit acquérir une certaine sagesse, une certaine science, de la grande connaissance dans différents domaines, parce qu'on a le temps d'étudier, on a le temps d'explorer, on a des siècles devant nous. Entre parenthèses, on avait parlé à l'époque, vous savez, des descendants de Caïn, et qui, en l'espace de 7 générations, étaient déjà des musiciens, étaient déjà des gens qui maîtrisaient l'industrie du fer, la métallurgie. Et c'est vrai qu'en vivant autant de temps, ça ouvre des perspectives assez extraordinaires de ce côté-là. Mais ce que l'on retient dans notre texte, c'est que le mal progresse et il devient de plus en plus intolérable. Ces longues durées de vie dont disposent les hommes sont mises, en quelque sorte, au service du mal. Voilà ce qu'on peut retenir. Et donc, cette rupture, hein, les deux cœurs, le cœur des hommes qui se tournent vers le mal, et le cœur de Dieu qui se trouve affligé de son côté. Vous savez, dans les couples, quand il y a un problème, il y a une personne du couple qui commence à se tourner vers d'autres personnes, qui commence à porter ses regards ailleurs, et le conjoint, généralement, la plupart des cas, se trouve dans une profonde souffrance à ce moment-là. Peut-être c'est une image qui nous permet de comprendre ce qui s'est passé avec ces hommes qui se sont tournés vers le mal complètement et Dieu qui a été dans la souffrance à cause de soi, dans une profonde affliction, nous dit le texte. Alors qu'est-ce qu'on va retenir pour ce matin ? Je pense qu'il faut retenir, c'est que les démons existent et qu'ils ont une influence sur nous, le monde des humains. Hein. On avait déjà ça, le pressentiment dans le jardin d'Éden, quand on a vu le serpent là qui commençait à venir perturber Ève. Et là, on a encore une fois la confirmation qu'il y a autour de nous des esprits mauvais dans les lieux célestes, comme les appelle l'apôtre Paul, et qui exercent une influence certaine sur la marche de notre monde. quand on parle du Fils de Dieu, Jésus-Christ, lui, est le Fils de Dieu, et également le Fils de l'homme. Et il a dit, je ne suis pas venu pour servir, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir et pour donner ma vie, un rançon de tous. Différence fondamentale d'approche de Jésus-Christ. Quand il est venu parmi les hommes, il n'est pas venu pour prendre une femme, il n'est pas venu pour se servir, il n'est pas venu pour se faire servir. Le Fils de l'homme est venu pour servir, lui, et pour donner sa vie en rançon pour beaucoup, hein, pour le rachat des péchés. Alors, pour autant, est-ce que c'est quelque chose qui est pas bien que de souhaiter de vivre vieux et de vieillir dans des meilleures conditions qui soient? Je pense pas que ce soit ce que le texte dise. D'une part, Dieu avait donné, on en a parlé, une longue vie aux hommes au départ. Quand le Fils de Dieu est venu sur la terre, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a guéri des malades, il a chassé les démons, il a fait le bien partout où il passait pour améliorer les conditions de vie des hommes par rapport à la maladie et par rapport à l'influence des démons. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue. Ceci étant dit, le vieillissement n'est pas l'ennemi numéro un de l'homme, hein. Vous l'avez compris, l'ennemi numéro un de l'homme, c'est pas de devenir vieux, c'est pas ça la catastrophe. Le problème, c'est le péché, c'est le mal. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 7, versets 21 à 23, voilà ce que déclare Jésus. C'est du dedans, Marc 7, 21, c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Donc le problème vient du cœur. Du cœur de l'homme, hein, de là où il se trouve le cœur, c'est dans notre texte et dans la Bible en général, c'est le siège des pensées, le siège là où on fait les décisions, là où on ressent les émotions, c'est l'être intérieur et c'est de là qu'est le problème. Bien avant donc le problème des influences et des esprits mauvais et qui peuvent venir compliquer les choses encore. Alors, on l'a lu tout à l'heure, la nouvelle alliance, je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous mon esprit, tout le monde connaîtra l'Éternel, on l'a lu ça dans Jérémie 31, tout à l'heure, promesse d'une nouvelle alliance, et dans le livre de Proverbes, on trouve deux exhortations avec laquelle je voudrais qu'on termine première partie du chapitre 6 du livre de la Genèse. Proverbe 4, 23 nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Un cœur nouveau, ça c'est particulièrement vrai pour le croyant, mais il y a dans notre cœur la possibilité de faire le bien, la possibilité de faire le mal. On a vu ça dans le Genèse chapitre 4, la connaissance du bien et du mal, et donc d'entretenir notre cœur pour le porter vers le bien. Et dans la Nouvelle Alliance, Dieu vient nous donner un cœur nouveau pour cela. Proverbe 23, 26. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Mon fils ou ma fille, Donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Voilà ce que j'avais prévu de partager ce matin avec vous. Ces deux cœurs, le cœur de l'homme d'un côté, vers où se porte notre cœur, et le cœur de Dieu de l'autre. Et cet encouragement, si on a trop de difficultés avec notre cœur pour arriver à lui faire produire de bonnes choses, ah ben, mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Alors on va prier. Notre Seigneur et notre Dieu, tu vois notre monde, la façon dont il marche et la façon qui est de plus en plus, parfois on peut avoir vraiment peur de ce qui se passe. Seigneur, tu n'es jamais au dépourvu. Tu n'es jamais pris au dépourvu. Et nous savons que tu règnes et que tu as ta bonne main sur toutes les situations. Et tu as déclaré dans ta parole, en parlant de la mer, ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Et tu peux mettre, tu le fais à toute chose. Nous te demandons, Seigneur, de nous garder, de garder notre cœur et nos pensées pour qu'elles te soient agréables, qu'elles soient tournées vers toi et non vers les mauvaises choses. Nous te demandons de nous protéger de toutes les influences extérieures qui sont là pour nous faire chuter, pour nous faire trébucher, pour nous mettre des bâtons dans les roues. Nous savons, Seigneur, que c'est quelque chose auquel il est impossible de se dérober. L'apôtre Pierre a dit que Satan était là comme un lion rugissant, cherchant qu'il va dévorer, et cette exhortation de lui résister avec une foi ferme. Aussi, Seigneur, aide-nous à résister au mal et à garder notre cœur toujours beau et vivant et agréable pour toi. Nous te demandons tout cela par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen.